Et nous allons entamer le sujet maintenant avec le professeur François Poinceau, qui est chef de pôle de pédopsychiatrie à l'APHM, donc assistance publique hôpitaux de Marseille, si j'ai bien compris. Hein. C'est ça. Voilà. L'autisme, connaissance et mode de prise en charge, où en est-on ? Lourde tâche que de faire, je pense, cet état des lieux. Je vous rappelle qu'après, on parlera des métiers. On découvrira un partenariat médico-social EPSM et Éducation nationale. Et puis, l'expérience d'un hôpital de jour. Donc, vous avez 30 minutes. Et ensuite, nous pourrons échanger avec la salle. Professeur Poinceau, c'est à vous.
Merci. Merci beaucoup de cette invitation qui me permet de présenter... un état des lieux des troubles autistiques.
Mais... Alors, le problème du micro, c'est qu'il faut s'exprimer très près. Voilà.
Mais en même temps, c'est un défi, et M. Moulec m'a gentiment proposé cette tâche. Je vais essayer en une demi-heure de vous dire à peu près ce qui me semble le plus important, mais en insistant évidemment sur ce qui évolue, pas forcément en parlant de tout ce qui se passe actuellement. Alors, pardon, j'ai un problème de... Voilà. Alors, pour revenir un peu en arrière... c'est Léo Kanner et Hans Asperger qui ont décrit des tableaux qui restent prototypiques. Donc c'est pour ça que je vous ai indiqué leur contribution dès le début, 1943 et 1944. Et on va voir que ces deux tableaux restent vraiment les deux grandes entités des troubles autistiques, mais avec toute forme de tableaux intermédiaires qui posent des questions complexes de diagnostic. Ce qui a beaucoup changé, c'est qu'on fait des diagnostics beaucoup plus tôt. Et en particulier, les parents s'inquiètent eux-mêmes, souvent bien avant les professionnels. Et il n'est pas rare que les médecins essaient de rassurer les parents avant qu'on puisse avoir accès à des diagnostics plus coordonnés et spécialisés. Il y a au moins un tiers des parents qui s'inquiètent des anomalies de leur enfant avant l'âge de 1 an. Et quand on regarde ce qui se passe dans la deuxième année, dans l'ordre, c'est plutôt le manque d'attention aux parents qui est noté. Ensuite, le retard de langage vers 18 mois. Qui commence à alerter, mais qui peut être pris évidemment pour un simple retard de parole et de langage. Et puis ensuite seulement la pauvreté de la socialisation, qui tient aux expériences que les enfants font dans les lieux de socialisation ou les crèches. Alors la question principale avec ce rajeunissement des inquiétudes parentales et de nos moyens diagnostiques, c'est comment on peut procéder, comment on peut faire pour à la fois repérer l'autisme, les troubles autistiques et les diagnostiquer. On peut dire que la deuxième année, entre 12 mois et 24 mois, c'est plutôt l'âge du repérage, avec des outils éventuellement possibles comme la MCHAT, avec les médecins de première ligne que sont les pédiatres et les médecins généralistes qui reçoivent les enfants. Mais ensuite, c'est plutôt, et même presque obligatoirement avec les recommandations de la HAS, des équipes, parce que le diagnostic doit être multidisciplinaire. Et à partir de 2 ans, ce sont des équipes de pédopsychiatres, éventuellement aussi en neuropédiatrie, et encore mieux associées entre eux, qui doivent assurer un diagnostic, mais qui ne pourra être affirmé qu'au minimum à 2 ans et demi pour les formes typiques, et plus tard pour des formes moins typiques. Alors qu'est-ce qui doit alerter le plus rapidement et le plus fortement les parents et les professionnels ? Alors on a quelques repères qui fonctionnent bien. À 12 mois, c'est l'absence de babillage, l'absence de pointés. On va voir que les pointés, c'est très important et que ça fait partie aussi des rééducations précoces qu'on peut faire dans la guidance parentale. Et puis évidemment, les autres gestes sociaux, puisqu'on va parler de communication préverbale avant de parler de communication verbale. À 18 mois, l'absence de mots. À 24 mois, l'absence d'association de mots qui ne serait pas écolalique, puisque certains enfants autistes peuvent utiliser des mots, mais écolaliques, on va y revenir. Et puis, quel que soit l'âge, les pertes de compétences, ou perte de langage. C'est ce que disent souvent les parents autour de 18 mois. Ils ont l'impression que leur enfant perd des compétences. En fait, c'est quelques mots qui apparaissent et qui ne sont pas maintenus, faute de communication active. Alors, l'autisme continue à être défini par cette triade, donc les atteintes sévères des interactions sociales, l'altération qualitative de la communication et la restriction du champ des activités et des intérêts. Dans le DSM-5, ça a été recoupé en 2 axes, mais en fait, c'est la même triade, même si actuellement, c'est un petit peu différent dans le regroupement. Voici comment le DSM-4 est en fait toujours la CIM-10, puisque la classification française et européenne, enfin, classification CIM-10, disons pas américaine, utilise des termes un peu différents. En CIM-10 et en DSM-4, on a encore des catégories qui qui sont l'autisme infantile, la forme la plus sévère, et d'autres troubles qui ont parfois été contestés, comme le syndrome de Rett, qui est un syndrome encéphalopathique qui a disparu du DSM-5, des troubles désintégratifs de l'enfance que personne ne voit, donc qui ont aussi disparu du DSM-5. En revanche, évidemment, le syndrome d'Asperger, mais dans le DSM-5, le syndrome d'Asperger n'est plus mentionné en tant que tel. Et l'autisme atypique ou partiel et des troubles envahissants du développement non spécifiés. Alors ces deux dernières grandes catégories, c'est très compliqué parce qu'elles vont alimenter un grand nombre de diagnostics qui ne vont pas être typiquement ce qu'on se représente habituellement comme des troubles autistiques. On a des évaluations qui sont de plus en plus performantes, et en particulier avec l'ADI et la DOS, que toutes les équipes ne manient pas parce que c'est des outils compliqués, surtout la DOS, en partie protégée, en partie compliquée à utiliser parce qu'il faut une formation assez longue. Ce sont des outils qui donnent des scores seuil. Alors le score seuil, ça permet de savoir si on est dans l'autisme infantile, qui reste la forme la plus sévère, ou dans un score qui permet de parler de troubles autistiques sans être dans l'autisme infantile proprement dit. Le DSM-5 a simplifié, mais en même temps, ça a rendu compliqué une différenciation fine, puisque actuellement, on va parler de troubles du spectre autistique, avec 5 niveaux de sévérité, et donc on est vraiment maintenant dans des dimensions de l'autisme qui vont être spécifiées par la sévérité, et non plus dans des catégories différentes de troubles autistiques. Et il y a un regroupement de 2 axes où communication et interaction sociale sont regroupées, alors que les intérêts restreints et répétitifs restent nécessaires et constituent la deuxième aire ou le deuxième axe. La prévalence de l'autisme, vous venez d'en parler, M. Schmitt, c'est très compliqué. C'est une prévalence qui a énormément augmenté, mais pour des raisons dont on pourra peut-être discuter ensuite. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. Les chiffres actuels, c'est qu'on arrive à pratiquement un enfant sur 100 qui est considéré comme ayant un trouble du spectre autistique, et 4 enfants pour 1000, 1 pour 250, qui serait un enfant qui serait atteint d'autisme infantile, donc la forme la plus sévère, si on prend les seuils au score des échelles. Ce qui est notable aussi sur une courbe comme celle-ci, c'est que non seulement ça augmente, mais que ça continue à augmenter, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation qui est véritablement exponentielle, avec, dans la réalité de nos pratiques, un afflux de demandes pour de très jeunes enfants, qui confirment que cette épidémiologie n'est pas tout à fait aberrante, ce n'est pas uniquement une vue de l'esprit, et du coup, l'énorme difficulté à pouvoir proposer des soins adaptés quand on fait des repérages précoces ou des diagnostics précoces. Alors, les signes cliniques de l'autisme, ils doivent être précoces, ça fait partie de la définition, c'est-à-dire apparaître avant 36 mois. Il n'y a pas de trouble autistique qui n'apparaîtrait pas avant 36 mois, mais ils peuvent être subtils. Par exemple, dans le syndrome d'Asperger, on va le revoir, ce sont des signes qui, parfois, ont été peu observés, mais ils devaient exister pour pouvoir faire un diagnostic ensuite de troubles autistiques sous forme d'un syndrome d'Asperger. Pour rappeler que l'altération de la communication, c'est surtout la communication non verbale maintenant qui va nous intéresser, du fait qu'on voit de très jeunes enfants. La communication non verbale, elle nécessite d'être attentif à des signes extrêmement fins. Les parents, parfois, ne sont pas suffisamment alertés sur le fait que ce n'est pas uniquement le langage qui permet de communiquer, il y a des gestes sociaux et il y a beaucoup de moyens de communiquer, en réalité, surtout la désignation, avant de parler. Ça permet aussi de situer le niveau d'attention conjointe des enfants. L'attention conjointe, c'est le fait d'imaginer qu'une autre personne peut partager le même intérêt. Et ça va se manifester en particulier par les premiers pointés proto-déclaratifs, surtout, et proto-impératifs que l'enfant adresse. Cela dit, les enfants autistes sont capables de faire des demandes. Ce ne sont pas des enfants qui sont toujours, même dans des formes sévères, complètement coupés de leur environnement. C'est parfois des besoins dont ils peuvent obtenir une satisfaction. Mais souvent, on dit en instrumentalisant les adultes qui s'occupent d'eux. Alors, les pointages qui vont être si importants et qui vont permettre de développer l'attention conjointe apparaissent chez l'enfant qui va bien vers 9 à 12 mois. Donc voilà des pointages typiques, plutôt prosodéclaratifs, c'est-à-dire plutôt pour attirer l'attention de la maman ou du papa sur quelque chose que l'enfant voit. Le pointage proto-impératif, c'est le fait de demander quelque chose en pointant du doigt, les enfants autistes pouvant n'avoir aucun de ces deux pointages, ou avoir une apparition très retardée de ces deux pointages. La communication verbale, elle va être très retardée aussi, voire parfois ne pas être possible du tout, ce qu'on appelle maintenant les enfants non-verbaux. Mais il faut retenir quand même que c'est plutôt des altérations qualitatives que quantitatives qui définissent l'autisme. Sinon, on serait devant des retards de langage qui ont d'autres origines. Il est nécessaire qu'il y ait des altérations aussi qualitatives, donc des anomalies dans l'intonation, dans l'usage du langage, que maintenant on appelle la pragmatique du langage. Et puis on est toujours très frappé par l'écolalie, quand c'est avec inversion pronominale, par exemple, l'enfant à qui on demande s'il veut boire, qui répète « tu veux boire ». L'altération qualitative des interactions sociales, c'est le manque de réciprocité. Alors ça dépend de l'intensité des signes, mais soit des enfants qui paraissent totalement indifférents aux autres, soit qui peuvent participer à certains échanges sociaux, mais sur incitation des autres enfants. Et puis des comportements et des intérêts restreints et répétitifs. Donc soit des intérêts restreints, des enfants qui ne vont faire qu'une seule chose de manière extrêmement répétitive et parfois approfondie. L'alimentation peut elle-même être restreinte. C'est très rare que les enfants aient une alimentation normale parce qu'ils ont tendance à sélectionner sur des critères parfois extrêmement bizarres, parfois la couleur, souvent la texture, leur alimentation. Ce sont des enfants qui sont très intolérants au changement et qui ont tendance à avoir des routines, ce que déjà Kanner appelait le sameness, le fait de vouloir que l'environnement soit toujours exactement pareil. Ils ont évidemment des comportements que vous connaissez, des comportements étranges, avec des battements de mains, c'est des enfants qui marchent sur la pointe des pieds souvent, qui sont fascinés par les mouvements rotatoires et qui peuvent passer de très longues périodes de leur journée à faire tourner des objets ou à regarder des choses qui ont des mouvements alternatifs ou rotatoires. Voilà, alors les enfants vont construire de manière répétitive. Parfois, ça leur permet d'avoir des intérêts pour chiffrer les lettres, toutes sortes de montages, comme ceux que je vous indique là. Ce qui est assez nouveau dans les centres de recherche et d'intérêt que nous avons auprès de ces enfants, c'est les comportements sensoriels. On recherche beaucoup plus les troubles des comportements sensoriels. On a des échelles, par exemple l'échelle de Dune, qui permet d'essayer de qualifier les troubles de la modulation sensorielle, les TMS. Ce sont des enfants qui ont souvent des sensations ou une sensorialité atypique, soit en hypersensibilité, soit en hyposensibilité. Bon, classiquement, des enfants, par exemple, qui tolèrent très mal le bruit, et ça peut entraîner beaucoup de difficultés à tolérer certains environnements, y compris, évidemment, l'école. Mais, évidemment, ça aboutit aussi à des comportements bizarres, que vous voyez illustrés sur les photos. Il faut penser que ce n'est pas uniquement des bizarreries de la pensée, mais aussi des bizarreries de la sensorialité. Et puis là, j'aborde un sujet qui est très compliqué, qui est la question du retard mental des enfants. Globalement, et c'est ce qu'avait fait Asperger en 1944, mais qui avait été oublié, parce que en fait, ce qu'on appelle le syndrome d'Asperger a été redécouvert par Lorna Wing dans les années 80, donc est entré dans les classifications par la suite, mais ce n'est pas un syndrome qui a fait fortune au début. Il a fallu longtemps pour découvrir à quel point c'était intéressant, parce que c'était plus subtil et que ça ne correspondait pas bien aux manières de comprendre l'autisme à cette époque-là. Mais l'idée générale, c'est qu'il peut y avoir un processus autistique qui n'est pas déficitaire, qui ne s'accompagne pas d'un déficit intellectuel. Et ça, c'est une question très compliquée, parce que en même temps, on ne peut pas non plus faire comme si le retard mental ne faisait pas partie intégrante du tableau de la plupart des enfants autistes. Alors voici les chiffres. Pour les enfants autistes, c'est-à-dire la forme la plus sévère pour l'autisme infantile, la plupart des enfants autistes ont un retard sévère ou modéré, et seulement 20% aurait un fonctionnement intellectuel qui ne serait pas déficitaire. Quand on est dans des problèmes d'autisme moins sévères, donc des seuils à la dose en particulier du spectre, mais pas de l'autisme proprement dit, la part du retard mental diminue beaucoup, et on a au moins 60% des enfants qui ont des fonctionnements intellectuels non déficitaires. Donc là, on entre dans les catégories de troubles autistiques parfois très compliqué à gérer pour l'enfant et pour ses parents, qui vont avoir des conséquences énormes sur son adaptation sociale, sur sa scolarité, mais qui ne s'accompagnent pas de troubles intellectuels au sens d'un déficit, au sens d'un retard mental. Alors le syndrome d'Asperger, évidemment, c'est cette catégorie-là. Ce sont des enfants qui ont les mêmes difficultés que les enfants autistes en général, si on reprend la triade symptomatique, interaction sociale, communication, intérêt restreint et répétitif, mais qui n'ont pas de troubles de l'intelligence, même s'ils ont une forme d'intelligence qui est parfois très orientée sur des intérêts spécifiques, et qui n'ont pas de délai dans l'acquisition du langage, c'est-à-dire qu'ils apprennent à parler dans des périodes relativement proches des autres enfants, et de ce fait-là, ils sont beaucoup moins repérés, parce que quand un enfant n'a pas de retard de langage, on est devant des particularités qui sont vraiment purement qualitatives. Donc on peut être alerté par certaines particularités, mais on est évidemment devant des tableaux beaucoup moins caractéristiques et évidents au départ. C'est pour ça que le syndrome d'Asperger est diagnostiqué très tardivement. Peut-être il ne faut pas le déplorer, parce qu'il ne faut pas non plus imaginer que donner une étiquette diagnostique à tous les enfants Asperger, ça ferait vraiment progresser ces enfants. Mais le diagnostic moyen est plutôt au début du collège ou à la fin de l'école primaire, alors quand même que les inquiétudes parentales étaient anciennes. Les études récentes montrent que, rétrospectivement, à partir de 2 ans et demi, 3 ans, les parents étaient inquiets. Mais du fait de l'absence de retard pour l'ensemble du développement, souvent ils ont été rassurés et on leur a dit que les enfants se développaient différemment les uns des autres. Pour l'autisme, on a vu tout à l'heure que les enfants étaient repérés quand même beaucoup plus tôt vers 18 mois, donc pour le syndrome d'Asperger, plus tard, et le diagnostic proprement dit, vraiment beaucoup, beaucoup plus tard. Alors, ce qui caractérise aussi les enfants qui ont un syndrome d'Asperger, outre donc les deux premières aires, communication et langage qualitatif, c'est leurs occupations qui sont circonscrites à des centres d'intérêt extrêmement restreints. Donc ce sont des enfants qui peuvent même avoir des compétences supérieures dans certains domaines parce qu'ils vont se spécialiser. Certains, comme le professeur Motron au Canada, pensent qu'ils ont même des dons parce qu'il y a des particularités du cerveau autiste Asperger qui leur permet d'aller au-delà dans l'attention visuelle, par exemple l'attention au détail, ce que font les autres enfants. Mais on peut aussi penser que c'est par spécialisation. C'est nécessaire au diagnostic parce que s'il n'y a que des problèmes de communication qualitative, on pourrait s'orienter vers d'autres diagnostics dont je ne vais pas parler ici. Donc il faut qu'il y ait aussi des intérêts restreints qui soient repérables. Et à l'école, ce sont des enfants qui ont des sujets particuliers bien repérés par les autres enfants. Souvent, les camarades sont bien plus compétents pour faire le diagnostic de trouble autistique type Asperger que les médecins. Quand on voit un enfant Asperger de 12-13 ans dans son bureau, que les parents décrivent quelques particularités, on peut hésiter légitimement. Alors que dans leur classe, en général, ils sont très bien repérés et qualifiés d'autistes depuis bien plus longtemps que ce que les médecins ont dit. Évidemment, ça déconcerte beaucoup les professeurs qui voient bien qu'il y a des particularités. Souvent, ils prennent ces enfants pour des enfants insolents, donc c'est assez compliqué parce qu'ils peuvent être réprimandés pour des choses qui leur échappent totalement, en particulier parce que les codes sociaux ne sont pas compris du tout ou très peu. Et à l'adolescence, ce sont des enfants... des adolescents qui ont peu de contacts affectifs de bonne qualité, qui vont avoir tendance à supporter très mal toute forme de changement. Donc là encore, vite repéré par leurs camarades. J'ai vu un garçon mercredi qui a dit devant une dizaine de ses copains qu'il était sans doute bisexuel, donc 14 ans, il dit qu'il est bisexuel. Et maintenant, quand il va faire des courses au supermarché, c'est ce que me racontent ses parents, il y a des enfants de l'école qui ne sont même pas dans sa classe, des enfants de son collège qui disent « Oh, ça va, le bi, comment vas-tu ?» Donc on voit qu'il y a à un moment une forme de compréhension de ce qui est intime et de ce qui ne l'est pas, qui n'a pas fonctionné pour lui. Puis ils m'ont donné plein d'autres exemples de choses qui ne seraient pas faites du tout pareil par des enfants habituels. Alors comment évoluent les enfants autistes à l'adolescence et à l'âge adulte? Les grandes séries montrent que actuellement il y a à peu près 5 à 20%, c'est assez large hein, parce que ça dépend des critères qu'on prend, mais des adultes autistes qui ont une vie sociale à peu près autonome ou proche de la normale, on va parler de quasi-guérison pour certains. 15 à 30% qui ont une adaptation moyenne, c'est souvent ceux-là qui peuvent travailler dans des structures professionnelles protégées, les ESAT, ou bien qui peuvent avoir si l'entreprise s'y prête, par exemple pour le syndrome d'Asperger, des tâches très spécifiques à leur confier, qui pourront avoir une certaine autonomie personnelle. Mais malheureusement, entre 50 et 80% de ces adultes autistes qui vivent dans une situation de grande dépendance. Et alors là, on est quand même devant un souci qui est celui des handicapés en général. Parfois, on dit que le trouble autistique est un trouble spécifique, mais en réalité, il y a aussi des choses qui vont rejoindre la grande... difficulté générale de l'adaptation à l'âge adulte de nos structures aux autistes comme aux autres personnes handicapées. Dans les grandes séries, on a vu aussi qu'il y avait nettement une différence entre l'évolution avant 1980 et après 1980. Alors pourquoi on a choisi 1980 ? En général, c'est parce que ça a correspondu, enfin, ce qui motive cette date. Cette année, c'est le DSM 3 et le DSM 4, donc le passage au DSM 3 et DSM 4, DSM 3 en 1980, qui s'est accompagné de critères différents, d'une reconnaissance différente des troubles autistiques, et en réalité de manière de soigner, on pourrait y revenir si vous voulez après dans les questions, mais de manière de soigner différente. Et quand on regarde sur longue période ce qui se passait avant et ce qui se passait après 1980, on voit que le pronostic a beaucoup changé, avec un nombre d'hospitalisations bien moindre, beaucoup plus ou un peu plus, disons, d'adultes autistes qui peuvent avoir un habitat autonome, qui peuvent être en activité professionnelle et qui sont considérés comme ayant une bonne évolution. Alors, je vais faire un petit point sur l'étiologie des troubles autistiques, puisque c'est toujours compliqué de comprendre ce qu'on peut dire actuellement aux parents de ces questions d'étiologie. Évidemment, on ne sait pas d'où vient l'autisme, hein, c'est quelque chose qui reste extrêmement mystérieux. En même temps, on ne sait pas rien non plus, donc je vais essayer de vous résumer ce qu'on sait actuellement sur les deux diapos suivantes. L'autisme, c'est quelque chose qui n'est certainement pas une maladie. Moi, j'ai préféré dire trouble autistique qu'autisme. Vous savez que j'ai mis au pluriel alors qu'on m'avait proposé au singulier. Et ce qui est certain, c'est qu'il peut y avoir des troubles autistiques associés à de nombreuses pathologies qui sont des pathologies génétiques ou neurologiques identifiées. Alors, l'une de celles que tout le monde connaît, c'est l'X fragile, qu'on recherche systématiquement, mais qui n'est pas spécifique de l'autisme. La plupart des X fragiles sont plutôt des enfants en retard plutôt que des enfants autistes. Mais beaucoup de pathologies génétiques ou autres, il n'y a pas que des pathologies génétiques, vous allez voir, neurologiques, sont associées à des traits autistiques, voire à un autisme au sens des TSA, c'est-à-dire qu'elles dépassent le seuil, tout en étant associées à une maladie qu'on connaît bien sur le plan strictement neurologique. Ensuite, il y a d'autres formes de compréhension étiologique qui sont des hypothèses de dysfonctionnement cognitif, qui sont souvent liées à des hypothèses de localisation cérébrale. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la manière d'organiser sa pensée, et à partir de là, essayer de voir dans quelle zone du cerveau ça se passe. Par exemple, c'est des enfants qui font attention aux détails, qui ont des difficultés de synthèse. Par exemple, ce sont des enfants qui ont de mauvaises reconnaissances des visages ou des émotions, des enfants qui ont des troubles à pragmatique du langage, des enfants qui ont un dysfonctionnement exécutif, ce qu'on appelle fonctionnement exécutif, c'est la planification des activités. Et ça, ça correspond à des zones du cerveau qui sont bien identifiées, surtout maintenant qu'on peut avoir l'IRM fonctionnel pour nous indiquer où ça se passe. Donc, dans le cerveau social ou dans le cerveau émotionnel, les amygdales, les hippocampes, les zones temporales pour le langage, les zones frontales pour les questions d'anticipation et de fonctionnement exécutif. Le problème, c'est que ça ne marche pas pour tous les enfants, c'est-à-dire que les enfants ne se ressemblent pas forcément entre eux. Et en IRM, par exemple, ça ne s'allume pas pour tous les enfants au même endroit. Donc c'est assez compliqué de dire que ce serait de véritables étiologies, mais il est certain qu'il y a des dysfonctionnements cognitifs et cérébraux qui peuvent apparaître comme des pistes de recherche pour comprendre comment les étiologies par la suite vont mieux se différencier. Ce qu'on sait aussi, pour brouiller encore plus les cartes, c'est que l'autisme peut être associé à des conditions environnementales extrêmes, peut-être moins extrême aussi, mais ça ne serait pas forcément politiquement correct d'en parler, donc on va dire extrême. Par exemple, si les enfants ont vécu dans des pouponnières de mauvaise qualité, on l'a vu avec les pouponnières en Roumanie, ce sont des enfants qui peuvent avoir des troubles extrêmement proches de l'autisme, voire tout à fait confondus avec l'autisme. Simplement, on a l'espoir, quand on arrive à soigner ces enfants assez vite, qu'ils puissent ne pas rester autant autistes que d'autres enfants qui ont des vulnérabilités plus organiques. Mais en tout cas, il y a des conditions environnementales, donc de développement purement environnemental, qui mime de manière très proche l'autisme. C'est dans le DSM-5, 4 déjà, ce qu'on appelle les TRAP, les troubles réactionnels de l'attachement de la première enfance, surtout dans la forme inhibée que décrivait le DSM-4. Et puis, bon, ce qui est plus moderne actuellement, mais un peu tarte à la crème aussi, c'est la notion de vulnérabilité. Ce sont des enfants qui ont à peu près certainement une vulnérabilité organique, mais est-ce que c'est une vulnérabilité forte ou une vulnérabilité faible? Ça, on ne le sait pas très bien. Mais c'est ce qui permet de parler de troubles neurodéveloppemental. C'est-à-dire qu'il y a une vulnérabilité organique qui va organiser un développement pathologique sur le plan du cerveau, ce que donc on appelle un trouble neurodéveloppemental, à expression précoce, avant 3 ans, parce qu'on pourrait penser que la schizophrénie est aussi un trouble neurodéveloppemental, mais à expression tardive. Et il y a une atteinte des circuits neuronaux, où il ne faut pas imaginer que ce sont uniquement des causes génétiques, il peut y avoir des causes toxiques, des causes infectieuses. Pour la génétique, en tout cas, on a progressé, on a identifié de nombreux gènes qui peuvent entraîner une vulnérabilité autistique, mais ce qu'on dit actuellement, c'est que ce n'est pas suffisant. On n'a pas de gènes qui entraînent à coup sûr un trouble autistique. En général, c'est une vulnérabilité, le mécanisme étant les gènes codants pour les protéines de la synapse, avec donc des atteintes des circuits neuronaux. Donc, globalement, on s'éloigne de zones cérébrales bien identifiées pour aller plus vers des circuits neuronaux, ce qu'on a appelé de manière plus générique la disconnectivité dans le cerveau.
Professeur, pensez-vous approcher de la conclusion ?
Je vais essayer d'aller très vite sur les pistes de travail.
Merci.
Donc la HAS a édicté un certain nombre de recommandations. Sur l'efficacité des soins, il y a eu de nombreuses études qui ont essayé de dire ce qui pouvait être efficace et ce qui l'était moins. Les études sont critiquables parce que c'est des enfants qui sont extrêmement hétérogènes. Je pense que vous l'avez vu avec ce que j'ai présenté avant. Et du coup, quand on présente l'efficacité des soins, on ne sait pas très bien à quels enfants on s'adresse. Laurent Montron, à nouveau lui, s'est beaucoup élevé contre la question des marques. C'est-à-dire, est-ce qu'il s'agirait de dire qu'il y a une marque de traitement, financée évidemment par les parents ou par des organismes d'assurance, qui va être plus efficace qu'une autre. Mais à ce moment-là, on a une standardisation des soins qui devrait correspondre à des groupes d'enfants bien identifiés. Et on est très loin de ça. Ce que dit la HAS, c'est qu'il faut des soins multidisciplinaires, précoces et coordonnés. Il faut que les soins soient évalués, ce qui est très compliqué. Donc on progresse dans l'évaluation des soins. Mais en réalité, ça a été fait surtout par des marques dont je vais vous parler ensuite, et assez peu pour l'ensemble des enfants qui bénéficient de soins beaucoup plus éclectiques. Une des difficultés aussi, c'est que pour montrer une efficacité, il faut une intensité des soins suffisante, et que 25 heures par semaine de soins, telle qu'elle est indiquée par l'HAS ou par la plupart des études, c'est énorme, et qu'actuellement, on est très très loin de pouvoir donner aux enfants 25 heures de soins. Et de plus, il est recommandé que ce soit des soins de plus en plus individuels, alors qu'on est sur des bases de groupes d'enfants, qui permettent d'avoir évidemment moins de soignants par enfant. Mais s'il fallait en plus faire 25 heures de soins individuellement avec un enfant, évidemment, ce serait extrêmement compliqué. Et pour tout dire, on n'y arrive pas du tout. Alors, il y a différentes cibles de prise en charge sur lesquelles je vais passer. Mais je voudrais indiquer qu'il y a beaucoup d'acteurs dans le champ de l'autisme. Il y a des acteurs dans le champ sanitaire, il y a des acteurs dans le champ médico-social, il y a des acteurs dans le champ libéral qui augmentent beaucoup. Parce que comme les structures répondent mal aux indications de l'HAS, en fait, il semble que les parents préfèrent organiser des soins dans des structures libérales. Mais alors, qui les coordonne? Ça, c'est un problème très important aussi. Et puis, il y a un gros déplacement vers l'école, c'est-à-dire que l'école devient le lieu dans lequel on soigne les enfants. La loi de 2005 a confirmé l'obligation que les enfants soient à l'école, donc soit classiquement avec AVS, soit dans des ULIS-TED, soit dans des IME. Évidemment, c'est très compliqué pour l'école, qui s'appuie sur des AVS. C'est un soin qui est vraiment extrêmement léger, mais ça fait partie quand même de l'ensemble de ce qui est recommandé comme des interventions qui doivent se coordonner entre elles. Alors, pour vous indiquer les différentes marques, historiquement, c'est le Teach, qui avait été inventé par Schoeppler, et ensuite l'ABA. Ce sont des méthodes qui ont été structurées sur le développement et pas sur la relation. Principalement, la cible, c'est le développement avec des méthodes d'éducation spécialisée, ce qui est évidemment très différent des techniques de psychothérapie, comment structurer l'espace, comment structurer le temps, comment planifier la vie quotidienne. Ce que nous, on utilise dans notre service, qui nous a semblé intéressant, qui est recommandé par l'HAS, c'est le Denver, qui est une méthode qui est inspirée largement de l'ABA, mais avec moins de conditionnement et plus de jeu. Et puis les parents qui ont pris un rôle très important, qui peuvent se former au Denver. Et ça, c'est ce que je veux vous dire aussi sur les approches rééducatives que sont le PECS et le MACATON, que vous connaissez sans doute. C'est-à-dire qu'on peut essayer d'améliorer la communication par des systèmes qui sont des systèmes à base d'images ou à base de gestes, les deux principaux étant PECS et MACATON. Donc le MACATON, c'est utilisé par les orthophonistes en ayant à la fois une aide par des gestes et par des symboles, alors que le PECS, c'est purement des images, c'est purement des images qui permettent de se substituer au langage articulé. On peut, avec des images, comme je vous les montre là, faire des phrases. Et donc, par exemple, des éducateurs, là, c'est au-delà des orthophonistes, les orthophonistes peuvent l'utiliser, mais des éducateurs et surtout les parents peuvent apprendre le PECS et utiliser une partie ou la totalité du programme du PECS, qui est issu de la méthode ABA,
pour essayer d'augmenter les capacités de communication de l'enfant. On a aussi des méthodes plus rééducatives sur la pragmatique du langage, sur les habiletés sociales. Donc là, c'est que des exemples, je vais très très vite. Parce que je voudrais poser cette question-là pour terminer, la question de la disparition des psychothérapies. C'est quelque chose qui est assez compliqué parce que pendant des années, nos équipes, et c'est ce que disait tout à l'heure aussi le docteur Schmitt, nos équipes ont été formées à des techniques de soins qui étaient largement inspirées par les psychothérapies. Les psychothérapies, elles ne sont plus mentionnées, elles ont quasiment disparu. D'une part, elles étaient peu intensives et on n'est pas du tout dans l'intensité des soins qui est recommandée. Je n'ai jamais connu, moi-même, quand j'ai commencé à travailler avec des enfants autistes, il y a déjà maintenant un certain temps, qu'un psychothérapeute soit en psychothérapie avec un enfant ou un enfant avec son psychothérapeute 25 heures par semaine. Quand c'était deux fois une demi-heure, c'était déjà pas mal. On avait beaucoup de mal à mesurer l'efficacité. Elles ont été attaquées, vous le savez, parce qu'elles n'ont pas prouvé leur efficacité et qu'elles faisaient parfois l'impasse sur les parents. Enfin, ça, peut-être on pourra en reparler. Et pourtant, il y a une grande question historique qui n'a pas été réglée, c'est la part du surhandicap dans l'autisme. C'est-à-dire qu'il est probable que les enfants autistes ont une vulnérabilité. Et puis en termes scientifiques, il y a aussi ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire que même si ce sont des maladies génétiques, il faut tout un contexte supplémentaire qu'on appelle l'épigénétique pour mettre en place des syndromes comme l'autisme. Mais il est probable que l'enfant en rajoute ce que les psychanalystes ont appelé les défenses autistiques, en tout cas que les enfants se surhandicapent et qu'on peut travailler largement dans cette voie du surhandicap, alors qu'on peut travailler assez peu sur la vulnérabilité de type organique. Donc c'est des questions qui ne sont pas du tout réglées. Ce qui a disparu aussi, c'est les thérapies institutionnelles, parce que les thérapies institutionnelles étaient très liées à la psychanalyse sur le plan théorique, et parce que il y a pratiquement aussi une disparition pour certaines familles de l'institution. Donc à partir du moment où il n'y a plus d'institution et qu'en plus la psychanalyse dans les institutions a été attaquée, en fait les thérapies institutionnelles ont quasiment disparu. Voilà, donc je vais terminer peut-être sur une dernière diapo que je vais choisir. Voilà, celle-là, la place des parents plutôt, si j'arrive à revenir en arrière. Ce qui a vraiment beaucoup changé, c'est la place des parents, et ça je crois que c'est une dimension extrêmement intéressante. C'est que les parents demandent à être les organisateurs des soins. Alors est-ce qu'ils peuvent l'être seuls? C'est pas sûr. Et puis c'est pas tous les parents. Mais le fait qu'actuellement il y a un mouvement de notre société qui revendique une place pivot pour le soin, alors qu'à un moment, peut-être, on déposait les enfants à l'hôpital de jour et qu'on revenait le soir voir s'il allait un petit peu mieux. C'est vraiment un changement majeur et extrêmement important. Les parents vont apprendre des méthodes d'éducation spécialisées. Alors là aussi, pas tous. Il y a des parents qui ne peuvent pas apprendre des méthodes d'éducation spécialisées. Mais certains le font. Et quand ils le font, vraisemblablement, ça permet beaucoup d'améliorer la qualité du soin et le pronostic des enfants. Mais il ne faut pas quand même cacher qu'il y a des tensions, ce que M. Schmitt disait aussi. Il y a des tensions dans les notions de maladie ou de handicap. Est-ce qu'on serait purement devant des handicaps ou quasiment les médecins pourraient ne plus avoir de place? Il suffirait de rééduquer les enfants. Moi, je ne crois pas. Je crois qu'il y a une forme de soins psychiques et pas uniquement de l'éducation spécialisée. Mais évidemment, c'est un secteur ou une question en tension. Et puis, en fait, on a l'impression que l'autisme, c'est un champ dans lequel il y a des mouvements de société très forts qui ont des revendications très légitimes. Mais dans le détail, moi je suis directeur d'un centre ressources autisme, je participe au centre, au CTRA, aux commissions techniques régionales de l'autisme. Dans le détail, les associations de parents sont très différentes les unes des autres. Et par exemple, la question du retard mental, elle change tout. Si vous avez un enfant qui a un handicap avec un retard mental extrêmement sévère, vous êtes dans le champ du handicap au sens des institutions. Si vous avez un enfant Asperger, vous n'êtes pas du tout dans cette dimension-là, mais vous avez des revendications légitimes qui ne vont pas passer par les mêmes réponses des pouvoirs publics. Voilà, je vous remercie.